de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un récit perpétuellement interrompu. Un voyage également interrompu tout le temps. Et alors, quelle importance ? L'importance, c'est le récit perpétuellement interrompu. Les récits perpétuellement imbriqués les uns dans les autres, dépendants ou indépendants les uns des autres. Que voulez-vous qu'on y fasse ? C'est écrit. C'était écrit. Suivons fantaisie et raison. Jean-Pierre Cassel était Jacques, Jean-Roger Cossimon son maître. Une adaptation en 10 épisodes. Le premier, que voici, fut diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, intitulé provisoire de l'ancêtre de France Culture, le 11 novembre 1963.
Comment s'était-il rencontré ?
Par hasard, comme tout le monde.
Comment s'appelait-il ?
Que vous importe.
D'où venait-il ?
Du lieu le plus prochain.
Où allait-il ?
Est-ce que l'on sait où l'on va ?
Que disait Jacques à son maître ?
Mon capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut.
C'est un grand mot que cela.
Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet.
Et il avait raison.
Comme vous avez pu en juger par les répliques qui précèdent, si vous les avez entendues, vous êtes à l'écoute de Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot, découpé par Roger Pilaudin et réalisé par Henri Soubéran.
Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret.
Oh, pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien.
C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit. Il se fâche. Je hoche de la tête. Il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy. De dépit, je m'enrôle. Nous arrivons. La bataille se donne.
Et tu reçois la balle à ton adresse.
Vous l'avez deviné. Un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux.
Tu as donc été amoureux.
Si je l'ai été.
Et cela par un coup de feu.
Par un coup de feu.
Tu ne m'en as jamais dit un mot.
Je le crois bien.
Et pourquoi cela ?
C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard.
Et le moment d'apprendre ses amours est-il venu ?
Qui le sait ?
À tout hasard, commence toujours.
Vous voyez, auditeur, que je suis en bon chemin. Et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu, d'embarquer Jacques pour les îles, d'y conduire son maître, de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau? Qu'il est facile de faire des comptes. Mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit. Et vous, pour ce délai. L'aube du jour parut. Les voilà remontés sur leurs bêtes et poursuivant leur chemin.
Et où allait-il ?
Mais voilà la seconde fois que vous me faites cette question et la seconde fois que je vous réponds. Mais qu'est-ce que cela vous fait ? Si j'entame le sujet de leur voyage, adieu les amours de Jacques.
Eh bien, Jacques, où en étions-nous de tes amours ?
Nous en étions, je crois, à la déroute de l'armée ennemie. On se sauve, on est poursuivi, chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous le nombre des morts et des blessés, qui fut prodigieux. Le lendemain, on me jeta avec une douzaine d'autres sur une charrette pour être conduit à un de nos hôpitaux. Ah, monsieur, je ne crois pas qu'il y ait de blessure plus cruelle que celle du genou.
Allons donc, Jacques, tu te moques ?
Non, pardieu, monsieur, je ne me moque pas. Il y a là je ne sais combien d'os, de tendons et d'autres choses qu'ils appellent je ne sais comment. Enfin, quoi qu'il vous plaise de penser, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins, et à chaque chaos, je poussais un cri aigu.
Parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais ?
Assurément. Je perdais tout mon sang, et j'étais un homme mort. Si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fût arrêtée devant une chaumière. Là, je demande à descendre, on me met à terre. Une jeune femme qui était debout à la porte de la chaumière rentra chez elle et en sortit presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus un ou deux coups à la hâte. Les charrettes qui précédaient la nôtre défilèrent. On se disposait à me rejeter parmi mes camarades lorsque, m'attachant fortement aux vêtements de cette femme et à tout ce qui était autour de moi, je protestais que je ne remonterais pas et que, mourir pour mourir, j'aimais mieux que ce fût à l'endroit où j'étais qu'à deux lieues plus loin. En achevant ces derniers mots, je tombais en défaillance. Au sortir de cet état, je me trouvais déshabillé et couché dans un lit qui occupait un des coins de la chaumière, ayant autour de moi un paysan, le maître du lieu, sa femme, la même qui m'avait secouru, et quelques petits-enfants. La femme avait trempé le coin de son tablier dans du vinaigre et m'en frottait le nez et les tempes.
Oh, malheureux, coquin, infâme, je te vois arriver.
Oh non, maître, je crois que vous ne voyez rien.
N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux ?
Et quand je serai devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire ? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux ? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas ? Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous disposez à me dire, je me le serais dit, je me serais souffleté, je me serais cogné la tête contre le mur, je me serais arraché les cheveux. Il n'en aurait été ni plus ni moins, et mon bienfaiteur eût été cocu.
Mais en raisonnant à ta façon, il n'y a point de crime qu'on ne commis sans remords.
Oui, ce que vous m'objectez là m'a plus d'une fois chiffonné la cervelle. Mais avec tout cela, malgré que j'en ai, j'en reviens toujours au mot de mon capitaine. Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Savez-vous, monsieur, quelques moyens d'effacer cette écriture ? Puis-je n'être pas moi ? Et étant moi, puis-je faire autrement que moi ? Puis-je être moi et un autre ? Et depuis que je suis au monde, y a-t-il eu un seul instant où cela n'ait pas été vrai ? Prêchez tant qu'il vous plaira, vos raisons sont peut-être bonnes, mais s'il est écrit en moi ou là-haut que je les trouverai mauvaises, que voulez-vous que j'y fasse ?
Je rêve à une chose. C'est si ton bienfaiteur eût été cocu parce qu'il était écrit là-haut, ou si cela était écrit là-haut parce que tu ferais cocu ton bienfaiteur.
Et tous les deux étaient écrits l'un à côté de l'autre. Tout a été écrit à la fois. C'est comme un grand rouleau qui se déploie petit à petit.
Vous concevez, auditeur, jusqu'où je pourrais pousser cette conversation sur un sujet dont on a tant parlé, tant écrit depuis 2000 ans, sans en être d'un pas plus avancé. Si vous me savez peu de gré de ce que je vous dis, sachez-moi beaucoup de ce que je ne vous dis pas.
La nuit s'approche.
Et cette contrée est peu sûre.
Arrêtons-nous dans cette auberge.
C'est la plus misérable.
On l'a, deux lits, et à souper.
L'hôte, l'hôtesse, les valets, tout avait l'air sinistre. Ils entendaient à côté d'eux les ris immodérés et la joie tumultueuse d'une douzaine de brigands qui les avaient précédés et qui s'étaient emparés de toutes les provisions.
Jacques, je ne suis pas tranquille. Entrez. Qu'est-ce que c'est ?
C'était un valet que ces insolents et dangereux voisins avaient contraint d'apporter à nos deux voyageurs, sur une de leurs assiettes, tous les os d'une volaille qu'ils avaient mangée.
C'est indigne ! Mon maître, donnez-moi vos pistolets !
Où vas-tu ?
Laissez-moi faire !
Où vas-tu, te dis-je ?
Maître, à la raison, cette canaille !
Sais-tu bien qu'ils sont une douzaine ?
Fussent-ils cent ! Le nombre n'y fait rien, s'il est écrit là-haut qu'ils ne sont pas assez. Vite, pense gauche ! Le premier qui remue, je lui brûle la cervelle. Qu'on se déshabille, vite! Et jetez vos habits. Vite, et au lit! Au lit!
Eh bien, Jacques,
Ces bandits
prisent autant la vie que des honnêtes gens, monsieur.
Tu t'es emparé de leurs habits?
Pour qu'ils ne soient pas tentés de se relever. J'ai éteint leur lumière et fermé à double tour leur porte, dont voici la clé. À présent, monsieur, nous n'avons plus qu'à nous barricader en poussant nos lits contre cette porte et à dormir paisiblement.
Oh, Jacques, quel diable d'homme es-tu? Tu crois donc...
Oh, je ne crois ni ne décrois.
S'ils avaient refusé de se coucher...
Cela était impossible.
Pourquoi?
Parce qu'ils ne l'ont pas fait.
S'ils se relevaient...
Tant pis. Ou tant mieux.
Si
la mer bouillait, il y aurait, comme on dit, bien des poissons de cuit. Mais que diable, monsieur, tout à l'heure, vous avez cru que je courais un grand danger, et rien n'était plus faux. À présent, vous vous croyez en grand danger, et rien, peut-être, n'est encore plus faux. Tous dans cette maison, nous avons peur les uns des autres, ce qui prouve que nous sommes tous des sots. Bonne nuit, monsieur.
Jacques!
Qu'est-ce?
Il fait jour.
Cela se peut.
Lève-toi donc.
Pourquoi?
Pour sortir d'ici au plus vite.
Pourquoi?
Parce que nous y sommes mal.
Qui le sait? Et si nous serons mieux ailleurs?
Jacques, mon ami, je t'en prie.
Et voilà nos gens partis. Le maître voulait s'éloigner au grand trot. Jacques voulait aller au pas, et toujours d'après son système.
Qu'est-ce qui résonne dans ta poche, Jacques?
Ce sont les clés des deux chambres, monsieur.
Et pourquoi ne pas les avoir rendues?
C'est qu'il faudra enfoncer deux portes. Celle de nos voisins pour les tirer de leur prison, la nôtre pour leur délivrer leurs vêtements, et que cela nous donnera du temps.
Fort bien, Jacques. Mais pourquoi gagner du temps?
Pourquoi? Oh, ma foi, je n'en sais rien.
Et si tu veux gagner du temps, pourquoi aller au petit pas, comme tu fais?
C'est que, faute de savoir ce qui est écrit là-haut, on ne sait ni ce qu'on veut, ni ce qu'on fait, et qu'on suit sa fantaisie qu'on appelle raison, ou sa raison, qui n'est souvent qu'une dangereuse fantaisie qui tourne tantôt bien, tantôt mal.
Pourrais-tu me dire ce que c'est qu'un fou? Ce que c'est qu'un sage?
Pourquoi pas? Un fou... Attendez... C'est un homme malheureux. Et par conséquent, un homme heureux est un sage.
Et qu'est-ce qu'un homme heureux ou malheureux?
Oh, pour celui-ci, il est aisé. Un homme heureux est celui dont le bonheur est écrit là-haut. Et par conséquent, celui dont le malheur est écrit là-haut est un homme malheureux.
Et qui est-ce qui a écrit là-haut le bonheur et le malheur?
Et qui est-ce qui a fait le grand rouleau où tout est écrit? Un capitaine, ami de mon capitaine, aurait bien donné un petit écu pour le savoir. Lui n'aurait pas donné une obole, ni moi non plus. Car à quoi cela me servirait-il? En éviterais-je pour cela le trou où je dois m'aller casser le cou?
Je crois que oui.
Moi, je crois que non. Car il faudrait qu'il y eût une ligne fausse sur le grand rouleau qui contient vérité, qui ne contient que vérité et qui contient toute vérité. Il serait écrit sur le grand rouleau « Jacques se cassera le cou tel jour ». Et Jacques ne se casserait pas le cou? Concevez-vous que cela se puisse, quel que soit l'auteur du grand rouleau?
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Mon capitaine, croyez que la prudence est une supposition dans laquelle l'expérience nous autorise à regarder les circonstances où nous nous trouvons comme cause de certains effets à espérer ou à craindre pour l'avenir.
Et tu entendais quelque chose à cela?
Assurément, peu à peu, je m'étais fait à sa langue. Mais, disait-il, qui peut se vanter d'avoir assez d'expérience? Celui qui s'est flatté d'en être le mieux pourvu n'a-t-il jamais été dupe? Et puis, y a-t-il un homme capable d'apprécier juste les circonstances où il se trouve? Le calcul qui se fait dans nos têtes et celui qui est arrêté sur le registre d'en haut sont deux calculs bien différents. Est-ce nous qui menons le destin ou bien est-ce le destin qui nous mène? Combien de projets sagement concertés ont manqué et combien manqueront? Combien de projets insensés ont réussi et combien réussiront? C'est ce que mon capitaine me répétait après la prise de Bergobzom et celle du port Mahon. Et il ajoutait que la prudence ne nous assurait point un bon succès, mais qu'elle nous consolait et nous excusait d'un mauvais. Aussi dormait-il la veille d'une action sous sa tente, comme dans sa garnison, et allait-il au feu comme au bal. C'est bien de lui que vous vous seriez écrié « Quel diable d'homme !»
Comme ils en étaient là, Ils entendirent, à quelque distance derrière eux, du bruit et des cris. Ils retournèrent la tête et virent une troupe d'hommes armés de gaules et de fourches qui s'avançaient vers eux à toutes jambes.
Sans aucun doute, ce sont nos brigands. Maudites soient les clés et la fantaisie ou la raison qui me les fit emporter. Maudite soit la prudence.
Vous allez croire que cette armée tombera sur Jacques et son maître, qu'il y aura une action sanglante, des coups de bâton donnés, des coups de pistolet tirés, et il ne tiendrait qu'à moi que tout cela n'arriva. Mais adieu la vérité de l'histoire, adieu le récit des amours de Jacques. Nos deux voyageurs n'étaient pas suivis. J'ignore ce qui se passa dans l'auberge après leur départ. Ils continuèrent leur route, allant toujours sans savoir où ils allaient, quoiqu'ils sussent à peu près où ils voulaient aller, trompant l'ennui et la fatigue par le silence et le bavardage, comme c'est d'usage de ceux qui marchent et, quelquefois, de ceux qui sont assis. Il est bien évident que je ne fais pas un roman, puisque je néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qu'il prendrait pour une fable.
Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours.
Je ne sais où j'en étais. J'ai été si souvent interrompu que je ferais tout aussi bien de recommencer.
Non, non. Revenu de ta défaillance à la porte de la chaumière, tu te trouvais dans un lit entouré des gens qui l'habitaient.
Fort bien. La chose la plus pressée était d'avoir un chirurgien. Et il n'y en avait pas à plus d'une lieue à la ronde. Le bonhomme fit monter à cheval un de ses enfants et l'envoya au lieu le moins éloigné. Cependant, la bonne femme avait fait chauffer du gros vin, déchiré une vieille chemise de son mari, et mon genou fut étuvé, couvert de compresses et enveloppé de linge. On mit quelques morceaux de sucre enlevés aux fourmis dans une portion de vin qui avait servi à mon pansement, et je l'avalai. Ensuite, on m'exhorta à prendre patience. Il était tard, ces gens se mirent à table et soupèrent. Voilà le souper fini. Cependant, l'enfant ne revenait pas et point de chirurgien. Le père prit de l'humeur.
Si t'avais été au moulin, comme je te l'avais dit...
On ira demain.
Eh bien, c'est aujourd'hui qu'il fallait y aller, comme je te l'avais dit. Si t'avais été au moulin, t'aurais pas été à la porte. Entrez.
Cependant, il arriva un chirurgien, puis un second, et puis un troisième, avec le petit garçon de la chaumière.
Te voilà en chirurgien comme Saint-Roch en chapeau.
Le premier était absent lorsque le petit garçon était arrivé chez lui. Mais sa femme avait fait avertir le second et le troisième avait accompagné le petit garçon.
Et bonsoir, grand-père.
Alors, voilà.
J'ai fait le plus de diligence possible et me voilà. J'ai chaud.
Nous avons chaud.
Asseyons-nous et buvons une bouteille.
La femme descend à la cave et en remonte avec une bouteille.
Que diable faisait-elle à sa porte?
On boit, on parle des maladies du canton, je me plains.
Dans un moment, nous serons à vous.
J'en boirai bien une seconde. À compte sur son traitement. Que diable faisait-elle à sa porte?
Puis une troisième, une quatrième, toujours à compte sur mon traitement.
Que diable faisait-elle à sa porte?
Quel parti un autre n'aurait-il pas tiré de ces trois chirurgiens, de leur conversation à la quatrième bouteille, de la multitude de leurs cures merveilleuses, de l'impatience de Jacques, de la mauvaise humeur de l'hôte, et des propos de nos esculapes de campagne autour du genou de Jacques?
C'est un homme mort si on ne se hâte pas de lui couper la jambe, compère.
Que dites-vous là, compère? Mais il faut extraire la balle de la portion du vêtement qu'il a suivi et conserver sa jambe à ce pauvre diable.
Jacques n'en usa pas envers son maître avec la même réserve que je garde avec vous. Il n'omit pas la moindre circonstance, au hasard de l'endormir une seconde fois.
N'allez-vous pas tirer des bistouris à nos yeux, couper les chairs, faire couler le sang et nous montrer une opération chirurgicale?
À votre avis, cela serait-il de bon goût? Allons, passons encore l'opération chirurgicale. Mais vous permettrez au moins à Jacques de dire à son maître...
Ah, monsieur, c'est une terrible affaire que de rarranger un genou fracassé.
Allons donc, Jacques, tu te moques.
Mais ce que je ne vous laisserai pas ignorer pour tout l'heure du monde, c'est qu'à peine le maître de Jacques lui eut-il fait cette impertinente réponse, que son cheval bronche et s'abat, que son genou va s'appuyer rudement sur un caillou pointu et que le voilà criant à tue-tête.
Je suis mort! J'ai le genou cassé!
Eh bien, monsieur, qu'en pensez-vous?
De quoi?
De la blessure au genou.
Oh, je suis de ton avis, c'est une des plus cruelles.
Au vôtre,
hein? Non, non, au tien, au mien, à tous les genoux du monde.
Mon maître, vous n'y avez pas bien regardé. Croyez que nous ne plaignons jamais que nous.
Oh, quelle folie!
Ah, si je savais dire comme je sais penser. Mais il était écrit là-haut que j'aurais les choses dans ma tête et que les mots ne viendraient pas.
Ici, Jacques s'embarrassa dans une métaphysique très subtile et peut-être très vraie. Il cherchait à faire concevoir à son maître que le mot « douleur » était sans idée et qu'il ne commençait à signifier quelque chose qu'au moment où il rappelait à notre mémoire une sensation que nous avions éprouvée.
Jacques, as-tu déjà accouché?
Non.
Et crois-tu que ce soit une grande douleur que d'accoucher?
Assurément.
Plains-tu les femmes en mal d'enfant?
Beaucoup.
Tu plains donc quelquefois un autre que toi?
Je plains ceux ou celles qui se tordent les bras, qui s'arrachent les cheveux, qui poussent des cris, parce que je sais par expérience qu'on ne fait pas cela sans souffrir. Mais pour le mal propre à la femme qui accouche, je ne le plains pas. Je ne sais ce que c'est, Dieu merci. Mais pour en revenir à une peine que nous connaissons tous deux, l'histoire de mon genou, qui est devenu le vôtre par votre chute.
Non, Jacques, l'histoire de tes amours, qui sont devenues miennes par tes chagrins passés.
Me voilà pansé, un peu soulagé, le chirurgien parti et mes hôtes retirés et couchés. Leur chambre n'était séparée de la mienne que par des planches à claire-voie sur lesquelles on avait collé du papier gris et sur ce papier quelques images enluminées. Je ne dormais pas et j'entendis la femme qui disait à son mari:
« Laissez-moi, j'ai pas envie de rire. Un pauvre malheureux qui se meurt à notre porte.
Ouais, »« Femme, tu me diras tout ça après. »«
Non, ça ne sera pas. Et si vous ne finissez pas, moi je me lève. »«
Mais pourquoi ?»«
Ça ne me fera-t-il pas bien aise lorsque j'ai le cœur gros ?»«
Ah ben, si tu te fais prier, t'en seras la dupe. »«
C'est pas pour se faire prier, mais c'est que vous êtes quelquefois d'un dur. »
La femme, convient donc à présent que par une compassion déplacée, tu nous as mis dans un embarras dont il est presque impossible de se tirer. » L'année est mauvaise. À peine pouvons-nous suffire à nos besoins et aux besoins de nos enfants. Le grain est d'une cherté. Il n'y a point de vin. Et encore si on trouvait à travailler. Mais les riches se retranchent, les pauvres gens font rien. Pour une journée qu'on emploie, on en perd quatre. Personne ne paie ce qu'il doit. Les créanciers sont d'une âpreté qui désespère. Et voilà le moment que tu prends pour retirer ici un inconnu, un étranger qui restera tant qu'il plaira à Dieu et aux chirurgiens. Qui se pressera pas de le guérir, car ces chirurgiens font durer les maladies le plus longtemps qu'ils peuvent, un inconnu qui n'a pas le sou et qui doublera, triplera notre dépense. Enfin, la femme, comment te défras-tu de cet homme, hein? Ben, parle donc, femme, dis-moi donc quelque raison.
Est-ce qu'on peut parler avec vous?
Tu dis que j'ai de l'humeur, que je gronde, mais qui n'en aurait pas? Qui ne gronderait pas? Il y a encore un peu de vin à la cave, hein? Dieu sait le train dont il ira. Les chirurgiens ont bu hier au soir plus que nous et nos enfants n'aurions fait dans la semaine. Mais le chirurgien, il viendra pas pour rien, comme tu peux penser. Alors qu'il paiera.
Oui, voilà qui est fort bien dit. Parce qu'on est dans la misère, vous me faites un enfant. Comme si nous n'en avions pas déjà assez.
Oh, que non.
Oh, que si. Je suis sûre que je vais être grosse.
Bah, voilà comme tu dis toutes les fois.
Ça n'a jamais manqué quand l'oreille me démange après. Et j'y sens une démangeaison comme jamais.
Moi, bon, ton oreille, c'est pas ce qu'elle dit.
Ne me touche pas. Oh. Laisse-la, mon oreille. Mais laisse ton là. Enfin, est-ce que tu es fou? Alors, tu t'en trouveras mal.
Mais ça m'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean.
Non. Tu feras si bien que... Dans un mois d'ici, tu me boudras comme si c'était de ma faute.
Oh non, oh non.
Oui, dans 9 mois d'ici, ce sera bien pire.
Mais non, non.
C'est toi qui l'auras voulu.
Oh oui, oui.
Tu t'en souviendras. Tu ne diras pas comme tu as dit toutes les autres fois.
Oui, oui, oui.
Et puis voilà que de non, non en oui, oui, il est certain que ce mari n'était pas trop conséquent. Mais il était jeune et sa femme jolie. On ne fait jamais tant d'enfants que dans les temps de misère.
Rien ne peuple comme les gueux.
Et puis c'est le seul plaisir qui ne coûte rien. On se console pendant la nuit, sans frais, des calamités du jour. Cependant, tandis que je me disais cela à moi-même, je ressentis une douleur violente au genou et je m'écriais.
Ah, le genou!
Oh, femme!
Ah, mon âme! Oh. Mais cet homme qui est là...
Bah oui, cet homme.
Il nous aura peut-être entendu.
Bah qu'il ait entendu.
Ah, demain, je n'oserais pas le regarder.
Pourquoi? Est-ce que t'es pour ma femme? Est-ce que je suis pour ton mari? Est-ce qu'un mari a une femme ou est-ce qu'une femme a un mari pour rien?
Oh.
Eh ben, qu'est-ce que...
Mon oreille!
Oui, quoi, ton oreille?
C'est pique jamais.
Oh, non, ah, ça se passera.
Oh non, je ne saurais. Oh, l'oreille! Oh, l'oreille.
L'oreille, l'oreille, ça est bien aisé à dire.
Je ne vous dirai point ce qui se passa entre eux, mais la femme, après avoir répété « l'oreille, l'oreille » plusieurs fois de suite à voix basse et précipitée, finit par balbutier à syllabes interrompues « l'oreille ». Et à la suite de cette « oreille », je ne sais quoi qui, joint au silence qui succéda, me fit imaginer que son mal d'oreille s'était apaisé d'une ou autre façon, il n'importe, cela me fit plaisir.
Et à elle donc?
Jacques, mettez la main sur la conscience et jurez-moi que ce n'est pas de cette femme que vous devintes amoureux.
Je le jure.
Tant pis pour toi.
C'est tant pis ou c'est tant mieux. Vous croyez apparemment que les femmes qui ont une oreille comme la sienne écoutent volontiers.
Je crois que cela est écrit là-haut.
Et je crois qu'il est écrit à la suite qu'elles n'écoutent pas longtemps le même et qu'elles sont tant peu sujettes à prêter l'oreille à un autre.
Cela se pourrait.
Et les voilà embarquées dans une querelle interminable sur les femmes. En suivant cette dispute sur laquelle ils auraient pu faire le tour du globe sans déparler un moment et sans s'accorder, ils furent accueillis par un orage qui les contraignit de s'acheminer où ? Où ? Mais auditeur, vous êtes d'une curiosité bien incommode. Mais que diable cela vous fait-il ? Quand je vous aurais dit que c'est à Pontoise ou à Saint-Germain, à Notre-Dame-de-Lorette, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais en serez-vous plus avancé? Bon, eh bien, si vous insistez, je vous dirai qu'ils s'acheminèrent vers... Vers un château immense, au frontispice duquel on disait « Je n'appartiens à personne et j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer et vous y serez encore quand vous en sortirez. »
Entrèrent-ils dans ce château?
Non, car l'inscription était fausse. Ou ils y étaient avant que d'y entrer.
Mais du moins, ils en sortirent.
Mais non, car l'inscription était fausse. Ou ils y étaient encore quand ils en furent sortis.
Et que firent-ils là?
Jacques disait ce qui était écrit là-haut, son maître, ce qu'il voulut. Et ils avaient tous deux raison.
Quelle compagnie y trouvèrent-ils?
Mêlés.
Qui disait-on?
Quelques vérités et beaucoup de mensonges.
Y avait-il des gens d'esprit?
Où n'y en a-t-il pas? Et de maudits questionneurs qu'on fuyait comme la peste. Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, pendant tout le temps qu'ils s'y promenèrent...
On s'y promenait donc?
Mais on ne faisait que cela. Quand on n'était pas assis, enfin, ou couché... Ce qui choqua le plus Jacques et son maître, ce fut d'y trouver une vingtaine d'audacieux qui s'étaient emparés des plus superbes appartements où ils se trouvaient presque toujours à l'étroit, et qui prétendaient, contre le droit commun et le vrai sens de l'inscription, que le château leur avait été légué en toute propriété, et qui, à l'aide d'un certain nombre de vauriens à leur gage, l'avait persuadé à un grand nombre d'autres vauriens à leur gage, tout prêt, pour une petite pièce de monnaie, à pendre ou assassiner le premier qui oserait les contredire. Mais cependant, au temps de Jacques et de son maître, on l'osait, quelquefois.
Impunément?
C'est selon. Vous allez dire que je m'amuse. Et que, ne sachant plus que faire de mes voyageurs, je me jette dans l'allégorie, la ressource ordinaire des esprits stériles. Eh bien, je vous sacrifierai mon allégorie et toutes les richesses que j'en pourrai tirer. Je conviendrai de tout ce qu'il vous plaira, mais à condition que vous ne me tracasserez point sur ce dernier gîte de Jacques et de son maître. Monsieur Soubéran, je vous prie... d'effacer tout ce qui précède et de remonter au coup de tonnerre. Oui, c'est là que nous reprendrons. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, de quelque endroit qu'il vous plaise de les mettre en route, ils n'eurent pas fait 20 pas que le maître dit à Jacques, après avoir toutefois, selon son usage, pris sa prise de tabac.
Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours...
Oh, diable, l'histoire de mes amours! Ne voilà-t-il pas que j'ai laissé...
C'était Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. Jean-Roger Caussimon, son maître. Et Judith Magre, Maurice Nazil, Jacques Morel, Yves Pénaud, Jean Péméja, Pierre Pérou. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage, Robert Mouffrin. Chef opérateur du son, Francis Granal. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistant de production, Pierre Cazaret. Réalisation, Henri Soubéran.
Ce premier épisode a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, bientôt renommée heureusement France Culture, le 11 novembre 1963. À suivre et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.